Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Tous, très heureux de vous accompagner cet après-midi pour l'Intégral Sport sur RMC. Dans une heure, c'est la reprise de la Ligue 2, présentation complète de cette saison 2022-2023 et coup d'envoi à 15h de la première affiche avec un alléchant Dijon-Saint-Etienne. Déjà une affiche entre prétendants à la montée en Ligue 1. Vous le savez, cette saison, il n'y aura que deux montées directes puisque la Ligue 2 va, comme la Ligue 1, passer à 18 l'an prochain. Première de Bordeaux également ce soir à 19h après plus de 30 ans passés en Ligue 1, Bordeaux-Valenciennes, devant 22 000 personnes au Matmut Atlantique, tous invités par le club et Gérard Lopez. On parlera aussi des candidats à la montée, deux places seulement cette saison, je vous le disais, mais aussi des équipes qui vont devoir batailler pour leur maintien avec quatre descentes. D'ici 15h, l'on parlera du football européen avec la Super Coupe d'Allemagne, Bayern-Leipzig et le Community Shield en Angleterre, avec ce choc énorme déjà, Manchester City et son nouvel attaquant volette et vedette Erling Haaland, et Liverpool avec sa recrue devant Darwin Núñez. On n'oublie pas les directs avec du cyclisme en ce samedi après-midi, l'avant-dernière étape du Tour de France femmes et la classique Saint-Sébastien chez les hommes. Hashtag RMC Live, appli direct au studio pour réagir. C'est parti pour l'Intégral Sport. Avant d'évoquer cette nouvelle saison de Ligue 2 2022-2023, c'est déjà parti à Saint-Sébastien, la classique. On retrouve Arnaud Souk, Saint-Sébastien ou Donostia pour les habitués, puisque c'est le nom basque de la ville de Saint-Sébastien. Salut Arnaud.
Salut Arnaud, on peut même dire Donostia, Saint-Sébastien, hein. C'est comme ça que cela se dit ici.
Et donc un point sur la course, c'est parti depuis combien de temps ?
Eh bien, c'est parti depuis 2h25, départ donc pour cette Classica 225 km. Il en reste 126 encore à parcourir. On va pas tarder du côté des zones de tête à arpenter les premiers lacets de la troisième difficulté de la journée, l'Alquiza, qui sera d'ailleurs l'une des difficultés empruntées l'année prochaine en 2023 lors de la deuxième étape du Tour de France, qui, vous le savez, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'après-midi, fera son grand départ du Pays Basque. Donc il y a quelques routes là qui, on va dire, seront défrichées aujourd'hui par le peloton de la Classica Saint-Sébastien. On a 9 hommes échappés depuis le début de la journée. Je vais vous épargner les noms des 9. Je vais vous donner ceux des Français. On a notamment Théo Delacroix et Fabien Grelier, donc qui sont les deux Français de l'échappée. 2 minutes et 25 secondes d'avance annoncée sur le peloton. Peloton des favoris, Arnaud, dans lequel on retrouve notamment Remco Evenepoel, dans lequel on retrouve également Tadej Pogacar, Matej Mohoric, Bauke Mollema, Simon Yates, Alejandro Valverde ou encore David Gaudu et Jay Hindley. Donc ça fait quand même du très très beau monde aujourd'hui sur la Classica Saint-Sébastien.
Avec une arrivée prévue vers 17h30 à peu près, Arnaud ?
Oui, dans ces eaux-là, oui. Alors j'ai pas refait les calculs pour l'instant. 41 de moyenne, ça nous donne une arrivée, oui, aux alentours de, allez, même un petit peu avant 17h30, je pense, Arnaud.
À vivre évidemment cette arrivée sur RMC, mais également tout le déroulé de cette course avec toi sur place. À tout à l'heure, Arnaud, pour présenter ce cru 2022-2023 de Ligue 2, ça va repartir dans 50 minutes avec cette première affiche Dijon-Saint-Etienne. On accueille Dorian Vemel de l'excellent site Malik 2. Bonjour Dorian.
Bonjour Arnaud.
Merci d'être avec nous. On va évoquer pendant une grosse demi-heure, voilà, les enjeux de cette saison, puisque évidemment avec deux monuments comme Saint-Etienne et Bordeaux, il y a encore un peu plus de projecteurs sur ce formidable championnat qu'est la Ligue 2. Vous suivrez évidemment le multiplex à 19h avec Benoît Boutron tout à l'heure, et nous on suivra évidemment Dijon-Saint-Etienne à Gaston Gérard avec Fred Joly qui est au stade à Dijon. Salut Fred.
Salut tout le monde, bienvenue à Gaston Gérard.
Avec, j'imagine, du soleil, du monde, oui. Des Stéphanois, en
oui.
plus.
Oui, en plus, tu sais qu'ils ont failli ne pas venir, les Stéphanois, à Gaston Gérard, puisque il y a encore quelques jours, un arrêt préfectoral avait été décidé qui interdisait tout supporter stéphanois ou personne avec des maillots stéphanois approcher le stade. Et puis finalement, on est revenu sur sa décision du côté du préfet de Côte d'Or. L'association des supporters stéphanois s'était un peu manifestée. Donc finalement, on a décidé de laisser les Stéphanois venir. Ils devraient être plus de 450 dans le parcage réservé aux Stéphanois. Mais je peux te dire que déjà dans le stade qui est en train de se remplir gentiment, il y a du vert un petit peu partout. Ça va sentir une ambiance très stéphanoise cet après-midi à Gaston Gérard.
Dorian, est-ce que ce Dijon-Saint-Etienne est d'ores et déjà un duel entre prétendants à la montée ?
Un petit peu parce que forcément Dijon est revanchard après la saison dernière qui a été assez décevante. Il y a Omar Daff qui est arrivé sur le banc. On connaît les ambitions d'Omar Daff. Il a joué les playoffs la saison dernière avec Sochaux. Il avait atteint le top 5. Donc forcément Dijon aimerait s'inviter dans le haut de tableau. Et puis bah, Saint-Etienne, forcément, j'ai envie de dire, par son histoire et par le fait que le club arrive de Ligue 1, fait figure aussi de favori, puisqu'ils sont en train de bâtir un projet pour remonter, peut-être pas directement, mais très rapidement, au moins dans les deux ans, avec Laurent Batless. Donc oui, c'est une très très belle affiche, en tout cas, pour lancer cette saison 2022-2023.
Si on entend quelques clameurs, Fred, c'est les Dijonais ou les Stéphanois qui viennent de rentrer, je crois?
Eh bien, quand les Dijonais, enfin, ce sont les gardiens pour l'instant qui sont entrés sur la pelouse pour s'échauffer. Quand les Dijonais, quand le portier Dijonais, René, est entré, il a eu quelques petits sifflets, alors qu'à l'instant, on vient de rentrer du côté de Saint-Étienne. Donc là, évidemment, il y a eu quelques applaudissements. Quand je te disais que l'ambiance était très stéphanoise, on ne va pas en être moins pendant plus d'une heure trente.
Et on va attendre les compositions qui tardent un petit peu à arriver. Pourtant, ça arrive normalement.
L'imprimante est en panne.
Une heure, et oui, toujours à l'imprimante, même sur Internet. On n'a toujours pas non. Sur le site de la Ligue la composition, à moins d'Orient que tu aies ce scoop.
Non, justement, je scrute aussi, toujours.
On zieute évidemment sur Saint-Etienne d'Orient, arrivé d'un coach, Laurent Batless, qui connaît à la fois bien la Ligue 2 pour être monté avec 3 et à la fois bien Saint-Etienne, puisque même si ses origines sont plutôt du côté de Toulouse, il a évidemment joué à Saint-Etienne, était dans le staff à Saint-Etienne et à la tête du centre de formation.
Bah oui, c'est un retour un peu aux sources pour Laurent Batless, en tout cas en tant que coach. Il a commencé là-bas, adjoint de Christophe Galtier. Ensuite, il a dirigé la réserve. Et puis, il s'est lancé du côté de Troyes. Deux saisons à l'Estac qui ont été vraiment très positives, avec la première année stoppée par le Covid où Troyes était vraiment à la lutte pour monter, et puis la deuxième où ils ont réussi à terminer champion. Donc il connaît effectivement par cœur ce championnat, et c'est pas un hasard s'il a ramené d'ailleurs pendant ce mercato des joueurs comme Jimmy Giraudon ou Dylan Chambaud qu'il a coaché du côté de l'Estac.
Son épine dorsale à l'Estac, hein.
Exactement, et même Dylan Chambaud qui était lui-même un joueur de la réserve de Saint-Etienne à l'époque, qu'il avait déjà emmené à Troyes. Donc effectivement, on sent vraiment que l'effectif va beaucoup bouger d'ici le 31 août. Il y aura des départs et encore pas mal d'arrivées, je pense, le temps que la descente soit digérée. Mais en tout cas, les premières recrues donnent le ton. Et on sent vraiment que Saint-Etienne veut bâtir une équipe typée Ligue 2, en tout cas avec des joueurs d'expérience comme Anthony Briançon, Victor Lobry. C'est un joueur qui est très peu connu du grand public, mais qui en Ligue 2 était une superbe affaire. Il était libre en provenance de Pau. Et c'est vrai que sur le papier, pour le moment, l'équipe qui est en train de bâtir Saint-Etienne avec Laurent Batless est vraiment séduisante.
Et c'est une équipe qui convient, alors parfaitement, je vais pas m'avancer, mais qui convient à la Ligue 2 avec ses briscards. Briançon à Nîmes, même s'il a fait les saisons de Ligue 1, il sait avec le Nîmes Olympique ce que c'était. Jimmy Giraudon, un vieux routier de la Ligue 1, à Grenoble aussi, je crois, avant 3. Est-ce que toi qui suis Dorian Vemel avec ma Ligue 2, ce championnat depuis de nombreuses années, ça te fait penser quand même que Saint-Etienne est bien armé pour aller truster les premières places, malgré, on rappelle, c'est moins 3 points pour débuter la saison?
Oui, sur le papier, l'effectif est séduisant. Maintenant, faut vraiment se méfier d'une relégation. C'est très très compliqué pour les clubs de immédiatement bien rebondir. Et par exemple, si on parle de Dijon, l'année passée, le recrutement avait été séduisant aussi, avec Mickaël Le Bihan, avec Daniel Congré, ce genre de joueurs. Et finalement, sur le terrain, ils n'avaient pas réussi à créer cette alchimie pour obtenir des bons résultats. Donc, oui, sur le papier, Saint-Etienne, c'est vraiment très bien ce qu'ils sont en train de bâtir. Maintenant, c'est à Laurent Batless de réussir à créer un bon mélange avec les nouveaux, les anciens qui ont vécu le traumatisme de la descente. C'est jamais évident, et je le disais, je pense que l'effectif va encore pas mal bouger. Je vois que Denis Bouanga est titulaire aujourd'hui. À mon avis, c'est un joueur qui risque de vite s'en aller aussi. Donc, il y aura encore pas mal de mouvements et une ossature à bâtir quand même tout au long du mois d'août. Pour Laurent Batless.
Les compos dans un instant de ce Dijon-Saint-Etienne. On va écouter le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batless, qui est mesuré et prudent, et en tout cas qui ne se voit pas favori pour les deux premières places.
On n'est pas favori, on est déjà à moins de 3 par rapport aux autres. Et il va falloir déjà revenir dans une certaine forme de positive au niveau des points. Avant de parler de favori, je pense qu'il y a beaucoup plus d'équipes que nous qui sont favoris. Parce que nous, obligatoirement, en étant à moins de 3, on n'est même pas encore dans le championnat par rapport aux autres. On va essayer, comme on l'a fait depuis tous les matchs amicaux, et d'essayer d'être ambitieux pour essayer d'aller prendre 2 points le plus rapidement possible.
Laurent Batless au micro de Jérémy Donzé, c'était en conférence de presse juste avant. Bon, décidément, Gaston Gérard, l'imprimante a du mal. Fred Joly, on a la compo Saint-Etienne, hein, et puis tu en parlais à l'instant, Dorian. Donc Étienne Green dans les buts, du Masson, Briançon, Giraudot, Nadé derrière, Youssouf et Camara au milieu de terrain avec Lobry, Cafaro et Branga Crasso. Ça semble être un 4-4-2 visiblement, messieurs. Ou
4-3-3. 3-5-2,
je pense. 3-5-2
ouais, je pense.
Avec Nadé en. Donc ça serait Briançon, Giraudon.
Youssouf, je
pense. Et Zedou Youssouf qui serait derrière.
Peut-être.
Et avec Sulban pour être complet. Raver, Silva, Bakayoko, Mouton, Aouchiche. Et qui est Rivera. C'est quand même fière allure, cette équipe de Saint-Etienne. Alors oui, il y a. Et on en parlera dans un instant avec Bordeaux. Saint-Etienne est aussi concerné, Dorian, par de probables départs, des réajustements dans ses effectifs, et notamment, tu le disais, Denis Bonga.
Oui, bien sûr, c'est un joueur qui a une assez forte valeur marchande, en tout cas au niveau de la Ligue 2. On sait que Saint-Etienne, ça reste un peu fragile à ce niveau-là, surtout après une relégation qu'il faut encaisser. Donc lui aussi, je pense que Denis Bouanga a l'intention de pas forcément revenir en Ligue 2. C'est un championnat qu'il a déjà beaucoup côtoyé avec Tours ou Lorient, donc il aura sans doute d'autres projets en tête. Ce sera pas le seul. En tout cas, ce qu'il faut signaler, c'est que s'il est titulaire, c'est qu'il s'est investi pleinement pendant la préparation. Il a répondu aux attentes de Laurent Batless, donc c'est très très bien pour les Verts de pouvoir profiter de lui tant qu'il est encore là. Denis Bouanga, à l'échelle de la Ligue 2, ça reste un joueur, une valeur sûre, j'ai envie de dire, même s'il il sort peut-être pas d'une saison, sa saison la plus aboutie l'année passée en Ligue 1, mais à l'échelle de la Ligue 2, c'est un élément important. Donc on sait que l'effectif peut bouger, mais en tout cas, l'état d'esprit a l'air très très bon, puisqu'il est titulaire malgré, on va se dire, une instance de départ.
Et puis on sait que Laurent Batless est un coach intransigeant. Exactement. Sur l'investissement de ses hommes. On revient dans un instant à Gaston Gérard. Vous suivrez à 15h le coup d'envoi de ce Dijon-Saint-Etienne, premier match de cette saison 2022-2023 de Ligue 1. Et à 19h, c'est un autre monument du football français qui va débuter sa saison en Ligue 2 au Matmut Atlantique en Gironde, Bordeaux-Valenciennes. Et ce sera commenté par Nicolas Paolorsi. Salut Nicolas.
Salut les gars, salut à tout le monde.
Est-ce que ça te fait pas un peu bizarre de te dire que tu vas commenter Bordeaux en Ligue 2 tout à l'heure ?
Bah franchement, même pas. Je vais même te dire un truc, c'est assez particulier, mais déjà il y a une vraie satisfaction de pouvoir commenter les Girondins, parce que je pense qu'il y a une semaine, tous les amoureux du club étaient vraiment en plein doute et pensaient que le club allait disparaître. Donc non, et puis il y a même quelque chose, ça fait quand même 3-4 ans que Bordeaux en Ligue 1 joue le bas de tableau, le maintien, ce sont des saisons un peu galères. Donc je pense que, alors bien sûr, j'aurais préféré voir le club en Ligue 1, mais il y a quand même une petite hype sur ce début de saison chez pas mal de supporters et chez nous les observateurs.
Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'euphorie, Nicolas, après ce qui a été vécu comme une victoire mercredi avec cette réintégration en Ligue 2, et qu'au niveau sportif, même si les joueurs se sont préparés avec David Guillon, qui a eu des bonnes choses en prépa, on est quand même un petit peu dans le brouillard et en manque de certitude avec un effectif qui va encore et qui va commencer à bouger.
Mais l'euphorie, elle est surtout chez les supporters, chez les gens qui ont suivi le volet financier. Pour le coup, les joueurs, David Guillon, le staff, le nouveau staff technique, parce qu'il y a un nouveau staff qui est arrivé à Bordeaux aussi, avec Denis Zanko notamment, en entraîneur adjoint, eux, ils se sont vraiment mis dans une bulle. Donc ils ont pu préparer leur saison assez convenablement. On sait que l'effectif de Bordeaux n'est pour l'instant pas taillé pour jouer la remontée immédiate en Ligue 1, qui est un des objectifs des Girondins, même si on sait que Bordeaux n'a pas impérativement besoin de monter l'année prochaine pour que le club survive désormais, parce que les finances ont été assainies. Tout de même, on aimerait retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible, mais tu vas le voir, David Guillon, on lui a posé bien évidemment cette question, est-ce qu'il n'y a pas trop d'euphorie, comment il sent, est-ce que c'est un soulagement vraiment de voir Bordeaux en Ligue 2. La réponse du coach:
c'est pas une finalité, on n'a pas gagné un trophée, c'est pas la fête non plus. Je suis un entraîneur ambitieux, je veux retrouver la Ligue 1 avec les Girondins, mais je suis aussi réaliste. Mon équipe, il n'y aura pas de renfort demain. Sur les 18, il y aura 14 garçons qui sont issus de Bordeaux. Donc, je suis réaliste également. Je sais qu'on a besoin de se renforcer et on va le faire dans les semaines qui arrivent, mais je sais qu'on a pris du retard.
Voilà, on a pris du retard.
On a pris du retard parce que. Alors, je vais quand même vous donner la compo ce soir et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, quand même, je suis plutôt optimiste parce que c'est vrai qu'on s'attend à une équipe très rajeunie. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer leur premier match en pro. Mais malgré tout, dans le but, il y a Gaëtan Poussin qui a joué des matchs en Ligue 1 la saison passée. Il y a Greg Hersen, international norvégien en charnière centrale. Au milieu de terrain, Danilo Ignatenko qui a fait une très bonne prépa et qui a une des satisfactions de la deuxième moitié de saison des Girondins la saison dernière. Est présent avec Junior Onana. Devant, on a Josh Maja qui fait son retour au club, qui est quand même un joueur intéressant pour la Ligue 2. Il a marqué des buts en Ligue 1. Josh Maja est sur le banc, en tout cas dans le groupe. Il y a Wang Wijo qui n'a pas joué une seule minute en préparation, mais qui est disponible et qui devrait être sur le banc de touche. Donc il y a quand même quelques cartouches qui peuvent faire espérer les 22 000 supporters ce soir pour Bordeaux.
Dorian Vemel de Ma Ligue 2, est-ce qu'on n'a pas là, entre Saint-Etienne et Bordeaux, deux situations différentes, au-delà un peu de la construction de l'effectif qui à Saint-Etienne a bien avancé, on vient d'en parler, et à Bordeaux où il n'y a pas forcément cette expérience Ligue 2, il y a un coach David Guillon qui avait fait une saison exceptionnelle avec le Stade de Reims, mais je crois que c'est sa seule saison en Ligue 2, est-ce que là on n'est pas à deux opposés entre Saint-Etienne et Bordeaux ?
Si, totalement. Saint-Etienne a pu préparer son retour entre guillemets en Ligue 2 en sachant très bien qu'il participerait à ce championnat. Ils ont pu prendre un peu d'avance sur le recrutement avec 5-6 arrivées de qualité. À Bordeaux, jusqu'à mercredi, on ne savait pas encore si le club pourrait repartir. Donc forcément, il y a eu des premières arrivées comme Vital Nsimba ou Johan Barbet. Malheureusement, ils ne sont pas encore qualifiés. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de retard accumulé du côté de Bordeaux. Je pense que ce soir, sur l'euphorie du fait de rester en Ligue 2 et puis sur la dynamique d'une bonne prépa malgré tout, ça peut tenir contre Valenciennes. Je pense que les jeunes vont avoir à cœur de faire un très gros match. Et voilà, je le dis, c'est que du bonus finalement ce premier match parce qu'il était un peu inattendu jusqu'à mercredi, on ne savait pas. Mais sur la durée, c'est clair que Bordeaux va devoir largement se renforcer, sinon ce sera impossible de viser l'objectif remonté avec autant de jeunes joueurs dans l'effectif sur l'ensemble d'une saison, c'est difficile.
T'as complètement raison Dorian, et de toute façon Bordeaux va recruter, hein. Là je vous rappelle quand même l'échéance, c'est mardi, convocation devant la DNCG, il peut y avoir des restrictions, hein. Interdiction de recrutement ou encadrement de la masse salariale. L'interdiction de recrutement, nous dans ce qu'on nous dit, c'est vraiment pas la tendance. L'encadrement de la masse salariale, même si c'est plus probable, c'est pas forcé que la DNCG sanctionne les Girondins. Donc à partir de mardi, si tout se passe bien pour Bordeaux, ils vont enclencher. On sait qu'il y a au moins deux joueurs qui sont quasiment prêts là pour venir passer leur visite médicale et on nous parle avec insistance de Khalifa Koulibaly, l'ancien attaquant du FC Nantes. Donc dès la semaine prochaine, David Guillon pourrait quand même voir des joueurs arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'après il va falloir reconstruire parce qu'ils n'auront pas bénéficié de cette préparation là. Mais en tout cas, Bordeaux attend 7-8 recrues hein, d'ici la fin du mercato si tout va bien devant la DNCG mardi.
Et il y aura de l'engouement tout à l'heure, Nicolas, puisque alors je vais pas dire c'était open bar, mais en tout cas c'était pas payant pour aller voir ce Bordeaux à l'ancienne.
Ah, si c'était open bar, moi j'aurais pas commenté le match, je me serais mis en virage, hein, je peux te le dire. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça a été le geste sympa de Gérard Lopez, parce qu'il y a eu une vraie mobilisation en Gironde. Vous rappelez de ce rassemblement de supporters pour essayer de venir sauver le club. Il y a eu une grosse mobilisation aussi des élus, de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, de la métropole de Bordeaux, pour essayer de faire encore exister le club et de le maintenir en Ligue 2. Donc le geste de Gérard Lopez, ça a été d'offrir les places sur ce Bordeaux-Valenciennes. Les places se sont arrachées, hein, puisque dès l'ouverture de la billetterie en quelques heures seulement, guichet fermé. 22 000 supporters parce que les Girondins ont décidé de mettre une jauge cette saison en Ligue 2. Hein. Je vous rappelle que le Matmut habituellement c'est 42 000 places. Là, la capacité maximale sur cette saison ce sera 22 000 places, mais ça va être une belle fête. Et je vous le dis en plus, hein, mais chez les supporters vraiment, il y a cette sensation un peu de tout ce qui s'est passé cet été, la dramaturgie de cet été, les finances assainies, on a l'impression que c'est un peu un acte fondateur, quoi. que le club repart un peu de zéro après les années de galère depuis la reprise des Américains, de GACP, la vente de M6. Et ça se ressent un peu au niveau du public. Alors bien sûr, il va falloir gagner des matchs parce qu'on sait qu'à Bordeaux, si on ne gagne pas, ça devient compliqué, surtout en Ligue 2. Mais moi, je pense qu'il y aura quand même du monde cette saison au stade.
Et on te retrouvera aux commentaires de cette rencontre dès 19h dans le multiplex Ligue 2 l'Intégral Foot avec Benoît Boutron et Sébastien Piocel. Merci Nicolas, bonne préparation de ce match et sachez que cette saison, un podcast 100% Ligue 2 sera retrouvé sur l'appli RMC et sur les différentes plateformes toutes les semaines autour de Benoît Boutron, notre monsieur Ligue 2. Plusieurs joueurs actuels interviendront, Anthony Briançon, Romain Thomas, Jordan Adeoti notamment, début le 6 septembre à la rentrée. Dorian Vemel de ma Ligue 2, tu ne bouges pas puisqu'on va balayer les autres clubs. Il n'y a pas que Bordeaux et Saint-Etienne évidemment dans ce championnat 2022-2023. On a parlé pas mal de Normandie, la Normandie en force hein, avec Le Havre, Caen et QRM. On revient dans un instant dans l'Intégral Sport sur RMC, ne bougez pas.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
14h32 sur RMC en ce samedi 30 juillet. On est heureux d'être ensemble et on vous présente cette journée de Ligue 2, la première de la saison, avec dans 28 minutes le coup d'envoi de Dijon-Saint-Etienne à suivre depuis le stade Gaston-Gérard. Mais les directs, c'est aussi du cyclisme. Il y aura le Tour de France Femmes avec cette avant-dernière étape de cette compétition en Alsace entre Célestat et le Markstein. Et depuis un peu moins de 3 heures, il y a cette classique, la classique Saint-Sébastien qui s'était lancé sur place. Arnaud Souk, la course, est-ce que ça a bougé par rapport à tout à l'heure?
Oh, ça n'a pas bougé énormément, mais en tout cas l'écart qui reste toujours réduit à quasiment sa plus simple expression, à 113 kilomètres de l'arrivée, alors qu'il y a 9 hommes en tête, 9 échappés, on va dire, voilà, l'échappée publicitaire du jour, parmi lesquels 2 Français, Théo Delacroix et Fabien Grelier. On a également 4 Espagnols, c'est important ici au Pays Basque évidemment de montrer, de mouiller le maillot. 1,50 seulement d'avance, alors qu'on est donc à la moitié de la course, une avance qui tend à se réduire donc pour les hommes de tête. On rappelle qu'il y a un paquet de favoris qui vont aujourd'hui vouloir se disputer la victoire finale. Certes, le Français Julien Alaphilippe n'est pas là, mais on en a d'autres, des Français. On a Guillaume Martin, on a David Godu, on a également côté coureur étranger, côté star étrangère, la présence de Tadej Pogacar, deuxième du dernier Tour de France, ou encore de Remco Evenepoel et de Jay Hindley, vainqueur du dernier Tour d'Italie. J'en oublie forcément, mais ça serait une trop longue litanie pour vous dire que cette course évidemment est une course de la plus grande importance. C'est l'une des, voilà, on va dire, c'est pas un monument. C'est clair, c'est pas un monument cette classique, mais on va dire que c'est l'une des plus importantes à remporter pour les coureurs après les monuments type Paris-Roubaix, Tour des Flandres ou encore Tour de Lombardie. Encore 112 donc kilomètres à parcourir pour les hommes de tête, 9 hommes de tête, 1,50 d'avance sur le peloton.
À tout à l'heure, Arnaud. Dorian Vemel de ma Ligue 2, journaliste ma Ligue 2 est toujours avec nous. Je vous le disais, il n'y a pas que Saint-Etienne et Bordeaux, même si évidemment ça suscite beaucoup d'interrogations, savoir ce que vont donner ces deux clubs qui sont descendus sportivement. Mais la Ligue 2, c'est vrai, c'est un petit peu la Normandie en force. C'est pourquoi on accueille Christophe Lécuyer. Salut Christophe.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Tu seras au commentaire de Le Havre-Grenoble tout à l'heure. Il y a donc Le Havre, ça on va dire que c'est la Haute-Normandie, avec Rouen aussi, QRM, Quevilly-Rouen Métropole pour être précis. Puis la Basse-Normandie avec Caen, ça fait du monde hein.
Ouais, il y a effectivement 3 clubs normands qui sont engagés donc dans ce championnat de France de Ligue 2 cette saison. Et on en dira un petit mot évidemment, mais avec des objectifs très différents. Il y a ceux qui essaieront de se mêler à la lutte pour la montée. On pense au Stade Malherbe de Caen. On a ceux qui présentent quand même un lot d'incertitudes assez important sur la ligne de départ. On parle du Havre. Et puis ceux qui s'attendent, comme l'année dernière, à lutter pour ne pas descendre en national. Je pense notamment à l'équipe de QRM qui, on le rappelle, avait terminé le précédent exercice à la 18e place et qui avait dû passer par les barrages pour se maintenir en Ligue 2.
Dorian, est-ce que quand c'est le tournant, on sait que Stéphane Moulin est arrivé l'année dernière, la Ligue 2 nécessite du temps, surtout quand il y a des projets, des cycles à entamer, est-ce qu'on attend vraiment Malherbe au tournant cette saison?
Oui, on attend une vraie progression de la part de Caen. Il y a déjà eu des gros progrès effectués la saison dernière en deuxième partie de saison. Ils ont plutôt bien fini le championnat en première partie de tableau, ce qui était déjà bien pour une première année, pour un nouveau projet qui se lançait effectivement avec Stéphane Moulin. Mais on attend Caen un petit cran supérieur. Est-ce que Malherbe sera capable de lutter clairement pour les deux premières places? C'est difficile de le dire. Là, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à ces deux premières places. Mais en tout cas, clairement, sur le papier, encore une fois, en termes de recrutement, ça a été très cohérent. Quand c'est pas mal servi de bons joueurs des autres clubs de Ligue 2 pour se renforcer, ce sont donc des joueurs qui connaissent déjà le championnat, qui connaissent déjà voilà, la Ligue 2, ses spécificités. Ça peut faire gagner du temps, et avec un entraîneur aussi compétent que Stéphane Moulin, qui a réalisé un travail colossal à Angers. Bah, oui, on se dit que Caen peut avoir sa carte à jouer, clairement.
Et d'ailleurs, Christophe, il a fait venir un de ses hommes. C'est Romain Thomas, qui est le nouveau défenseur central de Malherbe.
Et qui portera d'ailleurs le brassard de capitaine hein, cette année. Stéphane Moulin en a fait son homme fort de la défense. Ça sera un cadre du vestiaire, inévitablement. Et on avait perdu cette habitude à Caen, mais pour une fois, l'été a été calme en interne, d'un point de vue de la gouvernance et même du staff. Hein. Vous savez que depuis 4 ou 5 ans maintenant, les intersaisons étaient marquées à Caen par des changements de président, des changements d'entraîneur. Et bien là, Stéphane Moulin s'apprête, on le disait, à démarrer sa deuxième saison à la tête du club canet, avec l'objectif effectivement de faire mieux que la 7e place de la saison dernière. Le budget est estimé à 12 millions d'euros. Caen n'a pas pu faire de folie, évidemment, hein, sur le marché des transferts. 9 joueurs sont tout de même arrivés pour une quinzaine de départs. Parmi les départs les plus significatifs, quand même, celui de Johan Le Penant, le prometteur milieu de terrain qui s'est engagé, vous le savez, avec l'Olympique Lyonnais. Et puis, autre cadre de la saison passée, l'ex-capitaine Jesse Demagué, qui n'a pas repris avec le groupe professionnel et qui, lui, est toujours en instance de départ.
Et oui, ça fait deux départs au milieu de terrain assez importants pour les Canets qui débuteront à Nîmes tout à l'heure à 19h. Et les Havrais dans tout ça, Christophe, le Havre-Grenoble, il y a eu également beaucoup de changements avec l'arrivée notamment d'un certain Mathieu Bodmer dans les dirigeants.
Effectivement, si à Caen on a misé sur la stabilité en interne, au Havre, eh bien tout a changé ou presque cet été. Paul Le Guen et son staff sont partis, le directeur général Pierre Ventier aussi. Place à Lucas Elsner, l'entraîneur slovène, hein, passé notamment par Amiens. Le patron du club, Vincent Volpe, qui est bien le seul qui est toujours là, hein, finalement. Il a nommé un président, la personne de Jean-Michel Roussier, bien connu, pour être entre autres ancien président de l'OM et de Nancy. Un directeur sportif, tu le disais, nommé Mathieu Bodmer. Le HAC qui entame sa 46e saison en Ligue 2, la 14e consécutive, ce qui en fait à tous les niveaux d'ailleurs le club doyen. Premier objectif de cette nouvelle équipe dirigeante, faire revenir le public au stade, a encore dit cette semaine Lucas Elsner. Il est vrai qu'Océane a souvent sonné creux ces dernières saisons. Et même si le recrutement de l'intersaison peut jusqu'à présent laisser perplexe, c'est bien une nouvelle ère hein, qui va s'ouvrir ce soir au pied du pont de Normandie face aux Grenoblois de Vincent Ognon, modeste 15e du dernier exercice, et qui eux vont évidemment tenter de faire mieux cette saison.
Dorian Lemel de Malik 2, Le Havre, est-ce que c'est pas un petit peu la curiosité avec l'arrivée de Mathieu Bodmer qui a beaucoup d'idées? On sait que ça va beaucoup s'appuyer également sur les datas au niveau du recrutement.
Oui, c'est une vraie curiosité maintenant, c'est vraiment difficile de savoir où va le HAC très précisément. Comme tout nouveau projet, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça. Les matchs de préparation, ils n'ont malheureusement pas été du tout rassurants. Il y a eu quelques grosses défaites. En fait, il y a toute une défense à reconstruire. C'est ce que nous expliquait Lucas Elsner. Et pour l'instant, les premières recrues en plus ne cochent pas du tout les cases, les fameuses data. C'est plus des joueurs d'expérience. En tout cas, des joueurs qui connaissent la Ligue 2, Zakaria Diallo, Gauthier Loris. Donc, pour le moment, je pense qu'on peut pas encore vraiment voir la patte de ce nouveau projet parce que l'effectif était tellement jeune, il y avait tellement de départs et de d'urgence en fait pour amener de l'expérience à ce groupe que pour le moment, je pense que le recrutement est vraiment effectué un peu dans l'urgence pour être quand même en ordre de marche pour le début du championnat. C'est difficile d'avoir un aperçu du projet à plus long terme, enfin à moyen terme en tout cas sur l'ensemble de la saison. J'ai l'impression que le Havre peut être une belle surprise comme se retrouver en difficulté en fait. On est un peu sur un fil, j'ai l'impression, et il va vite falloir rassurer les supporters et obtenir des premiers bons résultats pour lancer une dynamique.
Un mot, Christophe, sur Quevilly-Rouen et pas Rouen, on ne confond pas avec le FC Rouen, hein, c'est source d'un débat très houleux, évidemment, en Seine-Maritime, mais Quevilly-Rouen qui connaît son troisième coach en l'espace d'un an. Hein.
Ouais, c'est ça, on le disait, des certitudes à Caen, moins au Havre et presque encore moins, j'ai envie de dire, à QRM. L'info majeure de cette intersaison, c'est l'arrivée effectivement du nouvel entraîneur, Olivier Chouafny. Il a pris la succession de Fabien Mercadal à la tête de cette équipe qui, on le disait donc tout à l'heure, a dû passer par les barrages pour obtenir son maintien en Ligue 2. L'ancien entraîneur des féminines du PSG, notamment, c'est qu'il le part pour une mission compliquée, car cette année encore, inévitablement, l'objectif va rester le maintien, en espérant, bien sûr, qu'il soit plus confortable que la saison passée. C'est d'ailleurs quand même la première fois de son histoire que QRM entame une deuxième saison consécutive en Ligue 2, mais l'effectif a été renouvelé de moitié, donc beaucoup d'incertitudes, évidemment, pour Olivier et Chouafny à l'heure de débuter cette nouvelle saison.
Merci Christophe, tu seras tout à l'heure au commentaire de Le Havre-Grenoble, 19h à suivre dans l'intégral foot autour de Benoît Boutron. À tout à l'heure, Christophe.
À tout à l'heure.
Direction l'Est, Metz pour être plus précis, avec Patrick Muller qui sera au commentaire de Metz-Amiens. Bonjour Patrick.
Salut Arnaud, salut tout le monde.
Le FC Metz qui a un peu comme Le Havre, on en parlait, a tout changé, ou presque Patrick, puisque là il n'y a plus Fred Antonetti et il y a surtout un nouveau coach et un nouveau directeur sportif pour les Messins qui sont, selon les bookmakers, un des favoris à la remontée directe. C'est vrai que l'ascenseur, c'est un peu une spécialité des Grenats, Patrick, hein.
Ah bah, complètement. Une petite stat si tu veux bien Arnaud, depuis la première relégation du FC Metz en Ligue 2, c'était en 2002, il y a pile 20 ans, eh bien, alors parenthèse, c'est la sixième fois que ça arrive, hein, en 20 ans, c'est vous dire aussi l'instabilité de ce club, qui avec une saison dernière très très compliquée, avec cette 19e place, 31 points seulement, eh bien sur les 5 fois précédentes, avant donc cette 6e fois, 4 fois le FC Metz est remonté tout de suite en Ligue 1. C'est bah voilà la preuve qu'il y a un certain savoir-faire en la matière, malheureusement, on est tenté de dire, hein, s'agissant du FC Metz, donc, qui fait l'ascenseur depuis un certain nombre d'années. Et tu l'as dit, en effet, hein, ça a été une grande lessive qui a été opérée ces dernières semaines. Exit Philippe Gaillot, le directeur sportif, ancienne figure historique du FC Metz en tant que joueur. Exit surtout Frédéric Antonetti après 4 saisons à la tête de l'équipe, et donc l'arrivée de cet attelage, j'ai envie de dire, hein, Pierre Dréhoussi, le nouveau directeur sportif, et la Slobologie, 69 ans, énormément d'expérience, et un parcours qu'il a vu pratiquer, si je puis dire, plusieurs pays, la Grèce, évidemment la France, la Belgique, le Golfe Persique, une pige aussi à la tête de la sélection roumaine. Et ce sont deux hommes qui sont habitués à travailler ensemble, hein. Ça c'est, on les a surtout vus du côté de Rennes au cœur des années 2000. Plus récemment au Panathinaikos, où ça s'est mal terminé pour la Slobologie puisqu'il a été limogé. Pierre Dréhoussi aussi a suivi le mouvement d'une certaine manière quelques temps après, et donc on a reconstitué cet attelage, je dirais pas dans l'urgence, mais disons qu'il fallait quelques certitudes dans cette mission remontée. Et la certitude pour le président Bernard Serin, enfin certitude, il faut évidemment se méfier de ce mot-là dans le football, ça a été de miser sur ce duo qui a l'habitude de travailler ensemble, qui est expérimenté, on l'a dit, 69 ans pour la Slobologie, 62 ans pour Pierre Dréhoussi, donc pour essayer effectivement de, une nouvelle fois, enclencher la marche avant vers le retour en Ligue 1.
Merci Patrick, tu sauras au commentaire de Metz-Amiens. Je faisais quand même le calcul entre la Slobologie et Pierre Dréhoussi, ça fait presque 131 ans à eux deux.
Ouais.
Quand même, Dorian Vemel, le président Serin, nous a sorti un peu de son chapeau un duo que fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans le foot français, mais franchement, on ne s'y attendait pas à cet attelage Pierre Dréhoussi, la Slobologie pour refaire remonter le FC Metz.
Ah non, clairement, là, c'était totalement inattendu, surtout que la. On va dire, entre guillemets, la mode un peu ces dernières saisons, c'est au contraire de lancer des jeunes coachs, surtout en Ligue 2, parce qu'il y a un peu moins de pression, il y a un peu plus le temps de laisser prendre les projets. On l'avait vu Laurent Batless à Troyes, il y a Stéphane Dumont à Guingamp. Là, c'est un peu la tendance ces dernières années, c'était ça. Et là, c'est totalement l'inverse. On rappelle un Laszlo Bologna, ça faisait très 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 longtemps qu'on ne l'avait plus vu en France. Pierre Dréhoussi, lui, il était quand même directeur sportif du Paris FC jusqu'en 2019 ou 2020, donc c'était plus récent. Mais effectivement, c'était l'arrivée de la nomination d'un coach totalement surprenante du côté du FC Metz.
Et ils auront face à eux un coach qui a marqué, évidemment, en tant que joueur, le FC Metz, et puis également en tant qu'entraîneur, c'est Philippe Hinschberger, puisque c'est Metz-Amiens. Philippe Hinschberger, coach d'Amiens, match à 19h avec Patrick Muller au commentaire, à suivre sur RMC. Direction l'île de beauté, retrouver Julien Pernich. Salut Julien.
Salut Arnaud, salut à tous.
Avec ce match Bastia-Laval, une équipe maintenue l'année dernière, le Sporting, face à un promu, le champion de national Laval. Quel est l'objectif pour les Bastiais cette saison, Julien ?
L'objectif fixé par Claude Ferrand, dit le président du Sporting Club de Bastia, c'est de viser le top 10. L'effectif a été un peu resserré, 13 départs, 9 arrivés. Dans les départs, il y a eu Julien Cardinal qui est parti du côté du Paris FC, Johan Bocognan aussi qui n'a pas été conservé, ce qui a fait tiquer quelques supporters. Et puis du côté des arrivées, beaucoup de jeunes, entre guillemets, c'est entre 20 et 26 ans du côté des joueurs de champ, et beaucoup aussi qui n'ont pas l'expérience de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Ils sont allés chercher des joueurs du côté de la D2 Suisse, ils sont allés aussi chercher le meilleur joueur du championnat de Luxembourg en défense, Kevin Vandenkerkhoff. Et puis il y a aussi Miguel Alfarella qui connaît un peu plus la Ligue 2 et qui est arrivé du côté du Sporting depuis le Paris FC en attaque. Mais cet effectif est plus homogène selon Régis Brouard, qui voulait ça. Il voulait un effectif plus homogène pour avoir la même valeur entre les titulaires et les remplaçants, et essayer d'aller chercher un maintien tranquille, même si l'objectif objectif, c'est bien entendu le top 10. Et on sait que du côté de Bastia, les supporters aiment rêver. Et pourquoi pas faire comme la CA Ajaccio pour certains supporters, essayer d'aller chercher une montée surprise, mais quand même, ça va être compliqué. Mais en tout cas, le maintien facile, ça reste un objectif qui est raisonnable pour le Sporting Club de Bastia.
Un derby corse, ça fait pas uniquement rêver les Bastiais. Nous aussi, on aurait envie de voir ça, Julien. Dorian, ton avis sur Bastia, c'est, allez, on va dire l'année de la confirmation, parce qu'ils ont fait une bonne saison. On te rappelle qu'ils ont terminé la 12e place avec 46 points, les Bastiais.
Oui, la deuxième saison est toujours un peu plus dangereuse. Quand on est promu, comme Bastia la saison dernière, on surfe sur cette montée, même s'il y avait eu un changement rapide de coach finalement, mais quand même, le groupe de joueurs avait su surfer sur cette dynamique de la montée. Il y avait beaucoup de certitudes dans le jeu. Là, Julien l'a très bien rappelé, on part sur quelque chose d'un peu nouveau, un recrutement très jeune, assez inexpérimenté. C'est un risque à prendre. En tout cas, le club a affiché des ambitions de vouloir figurer peut-être en première partie de tableau, mais sur une saison à 4 relégations, c'est vrai que si déjà le Sporting peut se maintenir sans trop de frayeur, ce serait déjà vraiment bien pour Bastia. Pour rêver de Ligue 1, je pense qu'il y a encore un fossé quand même avec certains clubs, que ce soit au niveau du budget, au niveau de l'effectif. Mais après, ça reste la Ligue 2. On a déjà vu des énormes surprises. D'ailleurs, avec le Gazélec Ajaccio, si on reste en Corse, il y a quelques saisons. J'ai quand même le sentiment que la Ligue 2, elle se renforce saison après saison. Et quand on voit des clubs comme Saint-Etienne, Bordeaux, Metz descendre, on se dit que quand il n'y a que 2 places pour monter, ça peut être très compliqué. En effet, donc un maintien serein, ce serait bien pour le Sporting.
Merci beaucoup, Dorian Wemel, journaliste Malik 2, un site évidemment référence pour l'actualité de l'antichambre de l'élite. Merci beaucoup, Dorian.
Un grand merci
de nous avoir accompagné. De rien. Merci beaucoup, Julien Pernich, pour Bastia Laval tout à l'heure à 19h à Furiani. À vivre sur l'antenne de RMC à tout à l'heure. Merci beaucoup, Julien. La Ligue 2, ça démarre dans 13 minutes avec ce match à Dijon-Saint-Etienne. Vous ne manquerez pas le coup d'envoi. La première mi-temps à Gaston Gérard avec notre commentateur Frédéric Joly. Mais on va s'intéresser dans quelques instants à de très beaux chocs européens. Il y a Manchester City-Liverpool à 18h, c'est le Community Shield. Et il y a la Super Coupe d'Allemagne à 20h30 avec Bayern Munich-Leipzig. On en parle dans un instant sur RMC. On revient dans, allez, même pas 1 minute 30 sur RMC.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
14h50 sur RMC, on vous accompagne cet après-midi en ce samedi avec de la Ligue 2. Évidemment, dans 10 minutes, ça reprend. On parlera de Formule 1 à 16h. Vous pourrez vivre les qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie avec Jean-Luc Roy qui sera avec nous. On vous présentera tout ça dans une bonne heure. On n'oublie pas le vélo, un Tour de France femme et la classique Saint-Sébastien. Direction Gaston Gérard, hein, puisque dans 10 minutes, ce sera le début de cette saison de Ligue 2 Dijon-Saint-Etienne. Fred Joly, enfin, les compos d'ailleurs, pourquoi ça mis un peu de temps, un bug assez inattendu.
Ah, ce n'est pas la faute à l'imprimante du DFCO qui marche très bien. On a changé des cartouches pendant l'intersaison. Un problème de logiciel de la Ligue, car tu sais que depuis cette saison, on peut prendre un numéro au-dessus de 70.
Oui.
Tu sais, Arnaud. Eh bien, figure-toi que le logiciel de la Ligue n'était pas formaté pour, ce qui a créé quelques problèmes, car quelques joueurs ont des numéros au-dessus de 70, comme Aouchiche, il a le numéro 50, par exemple. Alors lui, c'est juste à la limite, mais par exemple on a le 93 avec Tune, le joueur qui arrive de Sochaux qui a le 93, ou encore Nguyen Sa qui a le 92. Donc petit souci de numéro dans le dos, ça a mis une pagaille terrible, mais bon, nous venons d'avoir les feuilles de match, tout va bien, la rencontre va pouvoir avoir lieu avec ce petit réglage à faire assez rapidement du côté de la Ligue pour pas être embêté pour les autres rencontres.
Oui, ça risque, j'ai presque envie de partir en fou rire tellement c'est gag ce qui s'est passé. L'essentiel des compos, on a déjà donné un Saint-Etienne tout à l'heure, mais du côté du DFCO, Fred.
Alors, dans les buts, René, il y aura Rochien qui composera la défense avec Congré, Touré, Traoré. Le milieu composé de Marie Ndong qui fait son retour au DFCO. Ndong qui était parti durant une saison du côté du championnat turc. Donc, Marie Ndong a récup. Le Bihan sera en pointe. Alors, tu observeras bien le Bihan. Tu vas voir comment il est affûté. Il nous a dit que la préparation mise en place par Omar Daf avait été très dure. Eh bien, je pense que ça a payé car le Bihan est vraiment. Il a retrouvé une ligne de vrai footballeur. Nassi Camara et puis Soumaré sera lui sur le côté gauche de cette équipe dijonnaise. Le coup d'envoi est dans 8 minutes maintenant à Gaston Gérard. Et tu entends, il y a de l'ambiance.
Ah oui, il y a de l'ambiance toujours avec ce speaker survolté à Gaston Gérard. Hein, tout à l'heure, Fred, il y aura de très belles affiches en football européen. Alors, ça ne reprend pas en Première Ligue ni en Bundesliga, mais il y a toujours ce match très important pour commencer la saison en Angleterre. C'est le Community Shield. Lounis Kelav de la rédaction de RMC Sport nous a rejoint. Bonjour Lounis.
À tous.
Avec ce grand choc, Manchester City-Liverpool pour commencer. Alors là, c'est presque un hors-d'œuvre pour débuter cette saison 2022.
Et côté Citizens, on est plutôt sur une bonne dynamique. On le rappelle, ils ont remporté leur match de pré-saison contre le club américain et le Bayern, 2-1 puis 1-0. Chez les Reds, c'était une préparation un peu en dents de scie, hein. Défaite 4-0 contre Manchester United, défaite contre Leipzig aussi, mais victoire contre Crystal Palace et carton contre Salzbourg, 5-0 entre les deux équipes. C'est toujours du grand football. La saison passée, on a eu le droit à 3 matchs assez ouverts avec 2 matchs nuls, 2-2 en championnat et une victoire 3-2 des Reds en demi-finale de FA Cup.
Avec évidemment les nouvelles recrues qui seront scrutées. Et j'allais dire, quelle recrue à City, parce qu'on pense évidemment au géant norvégien Erling Haaland.
Ouais, grande première, ce sera un match dans le match entre Darwin Núñez et le nouvel avant-centre de Liverpool et Erling Haaland, nouveau numéro 9 de Pep Guardiola. On l'a vu ces derniers jours, ils ont été pas mal comparés pour leur physique, leur taille, le poste d'avant-centre qu'ils occupent. En conférence de presse, Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, a expliqué que les deux attaquants allaient avoir besoin de temps avant d'avoir une vraie chimie dans leur équipe respective. Petit avantage tout de même pour Erling Haaland qui semble plus intégré au jeu des Sky Blues. On sent quand même que c'était le joueur, le buteur qu'il manquait à Pep Guardiola. Il a marqué d'ailleurs l'unique but de la rencontre face au Bayern Munich en match amical. Pour Núñez, c'est un peu le jour et la nuit. Pour son premier match avec Liverpool contre Manchester United, il avait clairement sous-performé et raté même l'immanquable. On avait vu les images qui avaient tourné sur les réseaux sociaux. Il était seul face au but et il avait totalement manqué son coup, ce qui lui avait valu des critiques après le match. Et puis contre Salzbourg, quadruplé en une mi-temps, de quoi apaiser le cœur des supporters. Mais c'est dans ce genre de grand rendez-vous que l'avant-centre acheté 75 millions d'euros est attendu.
Et vous serez tenu au courant sur RMC de cette rencontre et notamment des compositions. C'est vrai, pas mal d'absents du côté de Liverpool. Il n'y a pas Alisson, il n'y a pas Jota, il n'y a pas Oxlade-Chamberlain notamment. On passe à l'Allemagne puisque à 20h30, c'est la Supercoupe. Le vainqueur du championnat, le Bayern, contre le vainqueur de la Coupe d'Allemagne, Leipzig. Et on parlait de Liverpool. Ces dernières années, le nom de Liverpool était souvent associé à Sadio Mané. Va falloir quand même s'y faire et peut-être se mouiller un peu la nuque parce qu'il ne sera plus à Liverpool. Mais bel et bien au Bayern Munich cette saison.
Ouais, grosse recrue pour le club allemand. Le Bayern a été très actif sur le mercato. Ryan Gravenberch, Nusay Mazraoui, Matthijs de Ligt et l'ancien Rennais Mathys Tel. Mais c'est bien Sadio Mané qui a le plus de chances d'être aligné par son entraîneur Julian Nagelsmann, qui apprécie en conférence de presse, il l'a dit, son professionnalisme. Il a souligné sa très bonne forme physique et son intégration très rapide dans le vestiaire.
Merci beaucoup Lounis, ce match Bayern Munich-Leipzig à 20h30 à suivre aussi sur RMC. On revient dans l'intégral sport avec notamment le coup d'envoi de cette saison de Ligue 2 dans 5 minutes à suivre et le cyclisme, la classique San Sebastian et le Tour de France Femmes, la 7e étape. Sur ces deux courses, on fera un point à un peu plus de 2 heures des arrivées qui sont prévues au-delà de 17h. À tout de suite dans l'intégral sport sur RMC.
RMC
Intégral Sport.